Un soir, en rentrant, trouvait encore un Prussien mort. Celui-là était couché dans un fossé du bord de la route. C'est le troisième, et toujours la même blessure, une entaille effroyable à la nuque. C'est comme une signature, toujours de la même main. Mais qui ? 15 novembre. Pour la première fois depuis longtemps, je pus mettre une date à mon journal et me reconnaître un peu dans cet embrouillement de journées uniformes. Ma vie est toute changée. L'ermitage ne me paraît plus aussi muet, aussi triste. Il y a maintenant de longues causeries à voix basse, la nuit, près des feux couverts dont nous emplissons la cheminée de la salle. Le Robinson de la forêt de Sénart a trouvé son vendredi, et voici dans quelles circonstances. Un soir de la semaine dernière, vers les 8 ou 9 heures, pendant que j'étais en train de faire rôtir une belle poule faisane à un tournebroche de mon invention, j'entendis des coups de fusil du côté de Champrosé. C'était si extraordinaire que je restais très attentif, tout prêt à éteindre mon feu, à faire disparaître cette petite lueur qui pouvait me trahir. Presque aussitôt, des pas précipités, très lourds sur le gravier de la route, se rapprochèrent de l'ermitage, suivis d'aboiements et de galops furieux. On avait l'impression d'un homme relancé, chassé à court, avec des chevaux et des chiens acharnés sur ses talons. En frissonnant, gagné par cette terreur vivante que je sentais arriver vers moi, j'entr'ouvris ma fenêtre. Dans le clos plein de lune, un homme entrait à ce moment, courant vers la maison du garde, avec une certitude qui me frappa. Certainement, il connaissait les êtres. Au passage, je ne pus distinguer ses traits. Je vis seulement la blouse bleue d'un paysan, toute remontée dans l'agitation d'une course folle. Par une croisée défoncée, il sauta dans la maison des Guillards et disparut dans la nuit du logis vide. Derrière lui, un grand chien blanc arrivait à l'entrée du cloître. Dérouté une minute, il resta là à remuer la queue et à renifler, puis se coucha de tout son long devant le vieux portail, donnant de la voix pour attirer les chasseurs. Je savais que les Prussiens avaient souvent des chiens avec eux et je m'attendais à voir paraître une patrouille de Uhlans. La vilaine bête, comme je l'aurais étranglée volontiers, si elle avait été à portée de mon bras. Je voyais déjà l'ermitage envahi, fouillé, ma retraite découverte, et j'en voulais à ce malheureux paysan d'être venu se réfugier tout près de moi, comme si la forêt n'avait pas été assez grande. Quel sentiment égoïste que la peur! Heureusement, les Prussiens n'étaient sans doute pas en nombre, et le noir, l'inconnu de la forêt, les intimida. Je les entendis rappeler leurs chiens, qui continuaient devant la porte ses hurlements, ses petits cris de bête en arrêt. À la fin, pourtant, il se décida à partir, et le bruit de ses bonds à travers les branches, les feuilles mortes, se perdit au loin. Le silence qui suivit me glaça. Il y avait un homme là, en face de moi. Par l'ouverture ronde de ma lucarne, j'essayai de percer l'ombre d'un regard. La petite maison du garde était toujours morne et silencieuse, avec les trous noirs de ses fenêtres sinistres sur la façade blanche. Je me figurais le malheureux blotti dans un coin, transi, peut-être blessé. Allais-je le laisser sans secours ? Mon hésitation ne fut pas longue. Mais juste au moment où j'entr'ouvrais doucement ma porte, elle reçut du dehors une poussée violente et quelqu'un se précipita dans la salle. « N'ayez pas peur, monsieur Robert, c'est moi, c'est Goudeloup. » C'était le fermier de Champrosé, celui-là même que j'avais vu la corde au cou, prêt à être pendu dans la cour de sa ferme. À la lueur du feu, je le reconnus tout de suite. Pourtant, il avait quelque chose de changé. Hâve, maigri, envahi par une barbe trop longue, son regard aigu, sa lèvre serrée, en faisait un être bien différent du fermier aisé, heureux, que j'avais connu autrefois. Du coin de sa blouse, il essuyait du sang sur ses mains. « Vous êtes blessé, Goudeloup ?» Il eut un petit rire singulier. « Non, non, c'en est un que je viens de saigner là-bas sur la route. » Seulement, cette fois, je n'ai pas eu de chance. Il en est venu d'autres pendant que je travaillais. C'est égal, celui-là ne se relèvera pas. » Et il ajouta, toujours avec son petit rire féroce qui découvrait ses dents espacées comme des dents de loup, « Voilà le 15e que je couche depuis 2 mois. J'espère que c'est joli pour un homme seul et qui n'a pas d'autre arme que ça. » Il avait tiré de sa blouse un sécateur, un de ces grands ciseaux de jardinier qui servent à tailler les rosiers, les arbustes. J'eus un frisson d'horreur en regardant cet outil d'assassin au bout de cette main sanglante. Mais j'étais muet depuis si longtemps, privé de toute communication avec un être humain, que ce premier mouvement de répulsion vaincu, je fis asseoir ce malheureux à ma table. Alors, dans le bien-être de la petite salle, à la chaleur des bourrées, à l'odeur du faisan qui achevait de se dorer devant la flamme, sa figure de fauve sembla s'adoucir. Ses yeux, habitués à l'ombre des longues nuits, clignotèrent un peu, et d'une voix tranquille, il me raconta son histoire. « Vous m'avez cru pendu, monsieur Robert. Eh bien, moi aussi, j'ai cru que je l'étais. Figurez-vous que lorsque les Uhlans sont arrivés devant la ferme, j'avais d'abord essayé de me défendre. Mais ils ne m'ont pas même donné le temps de décharger mon second fusil. Pas plus le premier coup parti, le portail était forcé et j'avais 30 de ces bandits sur le dos. Ils m'ont mis la corde du grenier au cou et hist ! Pendant une minute, tout étourdi de ne plus sentir la terre sous mes pieds, j'ai vu tourner autour de moi la ferme, les hangars, les chenils, ces grosses faces rouges qui riaient en me regardant, et vous-même que j'apercevais là-bas dans la brèche du mur, pâle comme un fantôme. Cela me faisait l'effet d'un rêve. Voilà que tout à coup, en me débattant, je ne sais pourquoi, l'idée m'est venue de faire le signe de détresse maçonnique. J'avais appris ça dans ma genèse, du temps que je faisais partie de la loge du Grand Orient. Aussitôt, mes bandits lâchent la corde et je retrouve la terre sous mes pieds. C'était leur officier, un gros à favoris noirs, qui m'avait fait dépendre rien que pour mon geste. « Vous êtes franc-maçon, me dit-il tout bas en très bon français. Je le suis aussi, et je n'ai pas voulu laisser sans secours un frère qui m'implorait. Filez vite et qu'on ne vous revoie plus. » Je suis sorti de chez moi, la tête basse, comme un mendiant. Seulement, je ne suis pas allé bien loin, vous pensez? Caché sous les débris du pont, vivant de raves crues et de prunelles, j'ai assisté au pillage de mon bien. Les greniers vidés, la poulie grinçant tout le jour pour descendre les sacs, le bois brûlé en pleine cour, de grands feux autour desquels on buvait mon vin, et mes meubles, mes troupeaux s'en allant pièce à pièce par les routes. Enfin, quand il n'est plus rien resté, chassant devant eux ma dernière vache à coups de fouet, ils sont partis en mettant le feu à la maison. Ce soir-là, lorsque j'ai eu fait le tour de ma ruine, lorsque j'ai calculé en pensant aux enfants que de toute ma vie je ne pourrais plus réunir un bien pareil, même en me tuant de travail, je suis devenu fou de rage. Le premier Prussien que j'ai rencontré sur la route, j'ai sauté dessus comme une bête sauvage et je lui ai coupé le cou avec ça. À partir de ce moment, je n'ai plus eu que cette idée, faire la chasse aux Prussiens. J'ai tenu à l'affût la nuit, le jour, m'attaquant aux traînards, aux maraudeurs, aux estafettes, aux sentinelles. Tout ce que je tue, je les porte dans les carrières ou je les jette à l'eau. C'est cela surtout qui est pénible. Différemment, doux comme des agneaux. On en fait autant dire ce qu'on veut. Pourtant, celui de ce soir était plus solide que les autres. Et puis, c'est ce satané chien qui a donné l'éveil. Aussi, maintenant, il va falloir se tenir tranquille un bout de temps et, avec votre permission, monsieur Robert, je passerai quelques jours chez vous. » Tout en parlant, il avait repris sa physionomie sinistre et la fixité singulière que ses terribles affûts ont donné à son regard. Quel sinistre compagnon je vais avoir là. 20 novembre. Nous venons de passer une semaine terrible. Pendant 8 jours, des patrouilles prussiennes n'ont cessé de parcourir la forêt dans tous les sens. Elles longeaient les murs de l'ermitage, entraient même dans le clos. Mais la petite maison du garde, pillée et grande ouverte, les lierres, les ronces qui donnent à la mienne un aspect si délabré, nous ont sauvés. Mon compagnon et moi, nous sommes restés tout le temps enfermés, assourdissant nos pas dans la salle, nos voix près du foyer et ne faisant plus de feu que la nuit. Si l'on nous avait découvert, cette fois, c'était la mort. Aussi, j'en voulais un peu à Goudeloup d'avoir fait de moi son complice en venant se réfugier ici. Le paysan le comprenait et, à plusieurs reprises, il m'a proposé de s'en aller chercher un abri ailleurs. Mais je n'ai jamais pu y consentir. Pour me remercier de mon hospitalité, il me rend une foule de petits services. Très empressé, très adroit à tous les détails de la vie pratique que j'ignore, il m'a appris à faire du pain mangeable, du vrai cidre, de la bougie. C'est plaisir de le voir s'activer tout le jour, restreignant à l'espace étroit de notre unique salle ses facultés de travail et d'ordre qu'il élargissait autrefois à la gérance de sa vaste ferme et de ses 50 arpents de terre. Morne et silencieux du reste, immobile le soir pendant des heures, la tête dans ses mains, comme tous ces travailleurs acharnés en qui la vie physique surmenée endort la vie morale. Et je souris quelquefois en remarquant que, malgré les circonstances dramatiques où nous vivons, il a conservé l'habitude des repas prolongés et met le temps d'une halte entre chaque bouchée. Tel qu'il est, cet homme m'intéresse. C'est le paysan dans toute sa férocité native. Sa terre, son bien, lui tiennent autrement au cœur que la patrie, la famille. Il me dit avec naïveté les choses les plus monstrueuses. Si l'on veut aux Prussiens, c'est seulement parce qu'ils ont brûlé sa ferme. Et les laideurs de l'invasion ne l'émeuvent que lorsqu'ils songent à sa moisson perdue, à ses champs restés déserts là-bas, sans labour ni semences. 22 novembre. Aujourd'hui, nous avons eu ensemble une longue conversation. Nous étions sous le hangar, assis en travers d'une échelle. Et malgré la froideur de l'air imprégné de pluie qui nous arrivait de la forêt avec des parfums de bois humides et de sol détrempé, nous éprouvions à respirer le plaisir de deux marmottes sortant de leur terrier. Goudeloup fumait une pipe bizarre qu'il s'est faite d'une coquille et de colimaçon, et il y mettait une exagération de bien-être et de contentement qui n'était pas sans malice. Malgré ma grande envie de fumer, j'ai déjà refusé plusieurs fois de me servir de son tabac, sachant bien comment il se le procure, et m'attendant toujours à y voir de petites floches du drap bleu dont sont faits les uniformes prussiens. Comme il me surprenait la narine ouverte, humant cette bonne odeur de fumée qui me tentait, il m'a dit, avec ce sourire matois des paysans, qui plissent les yeux en amincissant la lèvre un peu mauvaisement, « Eh bien, voyons, vous ne fumez donc point ?» Moi. Non, merci. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas de votre tabac. Goudeloup. Parce que je suis allé le prendre dans leur poche. Pourtant, c'était mon droit. Ils m'ont assez volé pour que je les vole aussi. Et ce n'est pas quelques poignées de mauvais tabac qui me paieront tout mon blé, toute mon avoine. Moi. Avec cette différence que ces gens vous ont laissé la vie, tandis que vous. Goudeloup. Oui, c'est vrai, ils m'ont laissé la vie, mais ils m'ont brûlé ma ferme, ma pauvre ferme. C'était moi qui l'avais fait bâtir, et mes troupeaux, et ma moisson, 10 acres de récolte. Tout cela était assuré contre la grêle, l'incendie, le tonnerre. Mais qui m'aurait dit que, si près de Paris, avec tant d'impôts qu'on nous faisait payer pour avoir de bons soldats, il aurait fallu m'assurer contre les Prussiens ? À présent, je n'ai plus rien. Est-ce que ce n'est pas pire que la mort, des catastrophes pareilles ? Ah oui, ils m'ont laissé la vie, les misérables. Ils m'ont laissé la vie pour aller aux portes, tendre la main avec la femme et les enfants. Voyez-vous, quand je pense à ça, il me vient des colères rouges, des envies de sang, de... Moi, comment, vous n'en avez donc pas assez tué ? Goudeloup. Non, pas encore assez. Je vais même vous avouer une chose, monsieur Robert. Vous êtes un bon garçon, vous m'avez bien accueilli, et ce n'est certes pas à dédaigner, du temps qu'il fait, une cheminée comme la vôtre. Eh bien, tout de même, il y a des moments où je m'ennuie chez vous. J'ai envie de me sauver, de recommencer mes affûts au bord du chemin. C'est si amusant d'attendre un de ces gueux-là au passage, de le guetter, de le suivre, de se dire « pas maintenant ». Et puis, hop, on saute dessus et on le couche. Encore un qui ne mangera pas de mon blé. Moi. Vous, que j'ai connu si doux, si tranquille, comment pouvez-vous parler de tout cela sans la moindre émotion ? Goudeloup. Faut croire qu'il y avait au fond de moi une mauvaise bête que la guerre a fait sortir. Pourtant, la première fois, je dois dire, ça m'a saisi. C'était ce soldat du train que j'ai rencontré le soir même de ma ruine. Je tapais de toutes mes forces sur l'uniforme sans bien me rendre compte qu'il y avait un homme dessous. Puis, quand j'ai senti fléchir ce grand corps, ce sang, cette chaleur vivante qui m'inondait, alors j'ai eu peur. Mais tout de suite, j'ai pensé au sac de farine crevé, éventré dans ma cour, et je n'ai plus rien eu. Moi. Puisque vous leur en voulez tant, pourquoi n'essayez-vous pas de rentrer dans Paris ou de rejoindre les armées de province ? Vous pourriez vous battre à visage découvert, tuer des Prussiens, sans traîtrise, sur un champ de bataille. » Gudelou. « Aller à la guerre, monsieur Robert, mais je ne suis pas un militaire. Mes parents ont même payé assez cher pour m'empêcher de l'être. Je suis un paysan, moi, un malheureux paysan qui se revenge et qui n'a besoin de personne pour l'aider. » À mesure qu'il me parlait, je voyais revenir en lui l'être farouche que j'avais recueilli un soir. Les yeux fous se rapprochaient du nez, ses lèvres se pinçaient, ses doigts crispés cherchaient une arme. 28 novembre. Il est parti. Je devais m'y attendre. Le misérable s'ennuyait de ne plus tuer. Avec la promesse de venir quelquefois la nuit gratter à ma porte, il s'est enfoncé dans l'ombre, moins sinistre que lui-même. Eh bien, si brute qu'il fût, je le regrette. La solitude amène à la longue une torpeur, un endormement de tout l'être qui a vraiment quelque chose de malsain. Il y a dans la parole une mise en train pour les idées. À force de parler à ce paysan de patrie, de dévouement, j'ai réveillé en moi tout ce que je m'acharnais à faire naître en lui. Je me sens tout autre maintenant. Et puis, la guérison, la conscience de la force qui revient de jour en jour, je voudrais agir, me battre. 30 novembre, 1er, 2 décembre. Un froid épouvantable. Vers Paris, la canonnade résonne de toute la sécheresse du sol et de l'air. Je n'avais encore rien entendu de pareil. Ce doit être une vraie bataille. Par moments, il me semble qu'elle se rapproche, car je distingue les feux de peloton, les déchirements horribles des mitrailleuses. Tout autour d'ici, il y a une agitation générale et comme des contre-coups de la bataille. Sur la route de Melun, c'est un mouvement continuel de troupes. Sur celle de Corbeil, des estafettes effarées filent au grand galop. Que se passe-t-il donc ? Malgré le froid, je vais, je rôde, cherchant les routes du bois où la canonnade m'arrive plus distincte. Quelquefois, je fais ce rêve. Paris sortant des remparts où il est prisonnier, les troupes françaises arrivant jusqu'ici, la forêt de Sénart pleine de pantalons rouges et moi-même me mêlant à eux pour chasser les Prussiens, reconquérir la France. Dieu ! 5 décembre. À la canonnade incessante de ces derniers jours a succédé un silence de mort. Que se passe-t-il ? Je suis dans une anxiété horrible. Si Paris était sorti de ses murs et marchait maintenant par les routes, les Prussiens débandés, refoulés, encombreraient la campagne, changeraient leur campement. Mais non, depuis hier, je ne fais que parcourir dans tous les sens les 4 lieues de forêt qui m'entourent comme une muraille, et c'est en vain que j'interroge les chemins environnants, silencieux, mornes comme à l'ordinaire. De loin, à travers les branches, j'ai aperçu, en approchant de Montgeron, une compagnie de Bavarois faisant l'exercice au découvert d'une immense plaine. Alignés tristement sous le ciel bas et jaune, ils remuaient d'un air résigné la boue de cette terre morte, privée de semences. Évidemment, Paris n'a pas encore fait sa trouée. Mais il ne s'est pas rendu non plus, car ses soldats avaient des mines bien piteuses pour des triomphateurs. Sur leur tête, des tourbillons de corbeaux passaient, s'en allant tous vers la grande ville, avec des cris, des repos aux plis de terrain. Jamais je n'en avais tant vu, même aux hivers paisibles où la France entière est semée de blé. Cette année, c'est une autre semence qui les attire. 6 décembre. Dieu soit loué, Paris est encore debout et bien vivant. J'ai eu de son existence une preuve charmante. J'étais ce matin au Puy du Cloître quand j'ai entendu du côté de Draveil une fusillade assez vive. Presque aussitôt, un bruit singulier, comme le claquement de toile d'une voile en pleine mer, l'effort d'un cordage qui crie en se tendant, a passé dans l'air au-dessus de moi. C'était un ballon, un beau ballon jaune, très visible sur la teinte sombre des nuages. D'où j'étais, il me semblait flotter à la pointe des arbres, quoiqu'en réalité, il fût beaucoup plus haut. Je ne puis dire combien la fragilité de ce ballon de soie, dont je voyais très bien le filet d'enveloppe, m'a ému, enthousiasmé. Je songeais qu'en effet, au-dessus de toute cette France vaincue, planait encore l'âme de Paris, une force vive, plus puissante que tous les canons-croupes rassemblés, et moi, parisien, cela me rendait fier. J'avais envie de pleurer, de crier, d'appeler. J'ai levé les bras en l'air vers deux points noirs immobiles au bord de la nacelle, deux vies humaines, ballottées par tous les courants du ciel, au-dessus des rivières où l'on se noie, des précipices où l'on se brise, et des armées prussiennes que l'on doit voir de là-haut comme d'immenses grouillements de fourmilières au ras du sol. Une ligne noire très légère s'est dessinée sous le ballon. J'ai entendu dans les branches un bruit de sable répandu et la vision s'est perdue au fond des nuages. 9 décembre. Qu'est-ce que je fais ici? En vérité, je commence à être honteux de mon inaction. Aujourd'hui, j'avais du pain à cuire, je n'en ai pas eu le courage. Tous ces détails auxquels je prenais plaisir, comme les reclus, les solitaires, ces égoïstes déguisés, à présent, je les trouve méprisables. Me voilà tout à fait guéri, à peine quelques douleurs les jours de grand froid. Je n'ai plus le droit de rester à l'ermitage. Ma place est là-bas, sur le rempart, avec les autres. Mais comment faire pour les rejoindre? Il paraît que l'investissement est très serré, que d'une sentinelle à l'autre, il n'y a qu'une portée de fusil. Si au moins j'avais un compagnon, quelqu'un du pays qui connût bien les routes. Je pense à Goudeloup. Je n'aurais pas dû le laisser partir. Qui sait où il est maintenant? Peut-être pendu à quelque croix de carrefour ou mort de froid au fond d'une carrière. Pourtant, l'autre soir, du côté des Meillottes, j'ai entendu un cri, rien qu'un cri, mais horrible, long, désespéré comme un sanglot, et tout de suite j'ai pensé « Goudeloup est là ». Eh oui, cet homme est un assassin, mais au moins il agit, il satisfait grossièrement un besoin de vengeance, de justice qui est en lui. Moi, je mange, je me chauffe, je dors. De nous deux, quel est le plus méprisable? 10 décembre. Retourné à Champrosay par un froid terrible. Les maisons au bord de la route, aveugles de toutes leurs fenêtres noires, avaient l'air de mendiantes tristes. J'ai revu le parc, le pavillon du bord de l'eau et le portrait souriant qui l'habite. Le froid n'avait pas terni le visage reposé, ni les teintes douces de la robe d'été. Seulement, le regard m'a semblé plus ferme, plus sévère, comme si j'y sentais un reproche. Dès le seuil, j'ai compris qu'on ne m'acceptait plus là. Discrètement, j'ai refermé la porte, descendu les marches couvertes de mousse gelée, et toute la nuit, ce clair regard de Parisienne m'a poursuivi comme un remords. 11 décembre. Ce matin, en allant relever les collets au fond du jardin, j'ai trouvé un pigeon. Cela m'a étonné. Les pigeons familiers ne restent pas sur les toits déserts et, jusqu'à présent, je n'avais pris que des tourterelles des bois. Celui-ci était bien un pigeon domestique, assez gros, les ailes mêlées de rouge et de blanc. Le collet ne l'avait pas blessé. Il était surtout engourdi par le froid. Je l'ai porté chez moi, devant le feu, et là, en le tenant des deux mains sans qu'il fît le moindre effort pour s'échapper, comme une bête privée, j'ai distingué sur une de ses ailes un chiffre imprimé, 523, et plus bas, Société de l'Espérance. Puis, sous les plumes, j'ai trouvé un tuyau un peu plus fort que les autres où tremblait une petite feuille de papier pelure roulée très fin. J'avais pris un pigeon messager. Venait-il de Paris ou de la province? Portait-il la victoire ou la défaite, une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je l'ai regardé longtemps avec une tendresse religieuse. Libre dans la salle, il tournoyait tranquillement en becquetant entre les carreaux. Peu à peu, ses plumes se sont gonflées à la chaleur, les forces lui sont revenues. Alors j'ai ouvert la fenêtre toute grande et l'ai posée sur le rebord. Il y est resté un moment, scrutant le ciel, allongeant le cou, cherchant à retrouver sa direction. Enfin, il est monté droit en l'air, puis, à une certaine hauteur, tout blanc dans le jour sombre, il a tourné brusquement vers Paris. Ah, si je pouvais prendre le même chemin que lui! 15 décembre. C'est décidé, nous partons demain. Je dis nous parce que Goudeloup est venu me retrouver. Je l'ai vu arriver hier à la Brune, plus hâve, plus effrayant que l'autre fois. Le malheureux en est à son 21e. Pourtant, sa vengeance commence à avoir assez de sang. En outre, il est traqué. Les affûts deviennent très difficiles. Aussi, je n'ai pas eu de peine pour le décider à tenter l'expédition de Paris avec moi. Nous partirons demain à la nuit dans mon bateau qui est resté là-bas en Seine, amarré à sa bouée sous les saules de la rive. C'est une idée de Gouteloup. Il croit qu'avec une nuit très noire, nous pouvons gagner par eau le port aux Anglais et de là, en rampant sur le chemin de halage, atteindre la première barricade française. Nous verrons bien. J'ai préparé mon revolver, des couvertures, deux ou trois pains et une grosse gourde d'eau de noix très forte qui nous tiendra lieu d'eau-de-vie. Certes, l'aventure est dangereuse, mais depuis que je suis résolu à la tenter, je me sens plus tranquille. Au lieu de me troubler, le canon de Paris m'électrise. Il me fait l'effet d'un appel, et chaque fois qu'il gronde, j'ai envie de répondre « On y va !» Je pense que le portrait du pavillon me sourit dans son cadre d'or et a repris sa calme physionomie d'image. Un seul regret en quittant l'ermitage, que deviendra mon pauvre colaquet ? Je laisse l'écurie ouverte pour qu'il puisse chercher sa vie dans la forêt. J'entasse près de lui mes dernières bottes de paille et, en faisant ses préparatifs, j'évite de rencontrer ses yeux étonnés et bons qui ont l'air de me dire avec reproche « Où vas-tu ?» Et maintenant, sur ma table, ouvert à cette page inachevée, j'abandonne mon journal avec ces derniers mots qui le termineront sans doute « En route pour Paris ».